Alors, écoute, aujourd'hui, on s'est dit, on va partir d'une chronique de Joseph Facal dans le journal d'aujourd'hui, Journal de Montréal. Joseph Facal, là, qui essaie de comprendre pourquoi il y a ce relâchement là qu'on observe présentement, et il pense que c'est peut-être lié à notre identité profonde comme Québécois. Il y a peut-être de quoi dans notre identité qui fait que on est comme tenté actuellement de faire revoler un petit peu les règles.
Je ne sais pas ça. J'ai lu Joseph Facal, je le lis toujours avec beaucoup d'intérêt. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je vais te dire pourquoi. Peut-être est-ce ce que j'ai vécu moi-même dans ma vie. Quand j'ai commencé à être journaliste, moi, vraiment, au début, je me suis retrouvé à Ottawa, je parlais même pas l'anglais, bon, blablabla. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvé à TVA, toujours à Ottawa, et on avait un patron qui s'appelait Claude Lapointe. Monsieur Lapointe est mort il y a une vingtaine d'années maintenant, c'était tout un personnage. Et lui, Monsieur Lapointe, me disait toujours, « La voix, arrêtez de regarder la qualité de ce qu'ils font à CTV et CBC, les Anglais sont meilleurs que nous autres. » Puis là, ça me mettait, le comprends-tu, hors de moi. Je pense pas qu'on est pire ou moins pire. Ou on est comme on est, puis bon, il y a des traits de caractère là, qui a été voir dans le livre...
De Jean-Marc Léger.
Jean-Marc Léger. Oui.
Le Code Québec.
Le Code Québec.
Oui. C'est bon, ça, résume la thèse de Facal, là, avant de dire que t'es pas d'accord.
Ben, la thèse de Facal, essentiellement, c'est que 76% des Franco-Québécois font passer la recherche du plaisir avant la réalisation du devoir. Là, Bernard, t'es dans la gang, je le sais. Bon, c'est 23% de plus que chez les anglophones, OK?
Non, c'est 23% de plus chez les...
Chez les anglophones, hein?
Non.
C'est 23% de plus nous que autres, chez on... les anglophones.
Oui, c'est ça. Nous
c'est
autres, on
ça que j'ai dit.
Oui, c'est ça. Pour nous autres, le plaisir, c'est pas mal plus important que ça l'est pour les anglophones.
Voilà.
Bon, c'est ça.
Alors, 74% des Franco-Québécois trouvent plus important de jouir du présent que de préparer l'avenir, 28% de plus que chez les anglophones.
C'est ça. Puis on est plus heureux, apparemment.
On est plus heureux, puis on a plus de fun.
Fait que là, il dit, en gros, on a moins de fun ces temps-ci à cause des contraintes puis de tout ça.
Oui.
Et donc, ça nous rend plus bougonneux. Et donc, on est tenté de...
L'envers de la médaille.
De relâcher. Bref, on c'est peut... notre côté... c'est comment est-ce qu'il dit? Le joie de vivre.
Le côté joie de vivre.
La joie de vivre des Québécois.
Versus ce qu'on appelle l'éthique anglo-saxonne du travail.
Ouais.
Ce sont toutes des définitions que j'accepte pas, Bernard. C'est pas vrai.
Ben voyons. Tu dirais pas que les francophones sont plus de party, toi?
Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Mais c'est quand on vient à l'aspect professionnel que j'embarque pas dans ça. Mais oui, les francophones sont plus de party. Oui, les francophones entendent plus à rire.
Non. Quand les francophones qui sont plus de party se font dire, on va fermer votre bar.
Ils prennent mal ça.
C'est-tu ça, tu penses?
Ben,
Même ceux qui vont pas dans un bar se font priver, d'un plaisir abstrait ou théorique ou virtuel, puis ça, ça se tient pas, cette affaire-là.
Non, ça se tient pas ben, franchement.
Non, mais je te parle de ma théorie, là.
Ta théorie, ben vas-y, comment résume-la encore, ta théorie, Bernard?
Non, mais c'est parce que Facal, il se fonde sur le sondage de Léger. Léger, pour écrire son livre, Le Code Québec, là, je veux dire, il a sondé beaucoup de Québécois.
Beaucoup
de Québécois. Et il nous a comparé aux anglophones. Et puis, il en est venu, sur plusieurs points, on est pareil. En francophone, anglophone, on est pareil. Mais il a identifié un certain nombre de points que j'ai résumé là par la joie de vivre. On est plus dans le moment présent, on est plus dans la fête, on est plus dans avoir du fun. Et là, on n'a pas de fun, fait que ça nous rend mal commode, ça nous rend marabout, ça nous rend malheureux. Et puis là, ben on a le goût de relâcher.
Et puis, on n'a pas tout à fait la même définition du mot solidarité aussi. On aime beaucoup parler de la solidarité des Québécois, et pourtant, c'est très, très bien connu. On fait beaucoup moins de bénévolat que les anglo-saxons, et
on donne moins souvent.
On contribue beaucoup moins aux œuvres de charité.
C'est ça.
Alors, il y a quelque chose de culturel, effectivement, dans ça. Le mot solidarité, il n'y a pas la même définition dépendant de à quelle culture t'appartiens, j'imagine.
Bon, OK. Ça, c'était le premier point dont on voulait parler. Le deuxième point, c'était, alors là, on n'est plus du tout dans le même rayon.
Mais
c'est quelque chose on perd jamais de vue, toi puis moi, l'actualité internationale, là, parce qu'on perd pas de vue qu'on est sur une planète, puis il faut regarder un peu ce qui se passe dans les autres pays. Et là, l'Allemagne assiste à une recrudescence du phénomène néo-nazi, y compris chez les policiers.
Chez les policiers et les militaires. C'est très, très inquiétant. Très, très inquiétant. On parle ici de gens qui sont des officiers dans l'armée, des soldats, des policiers dans la région Westphalie, là, qui avaient une sorte de chat group, puis ils échangeaient entre eux la croix gammée, puis ils échangeaient entre eux des photos de fours crématoires. Il y avait même des montages photographiques où tu voyais un réfugié dans un four crématoire. Écoute, c'est vraiment incroyable. Parce que tu vois, moi, l'Allemagne, j'avais été voir un musée récemment quand j'étais à Berlin.
Ouais.
L'Allemagne, juste après la guerre, mettons 1950,
ouais. Okay,
j'avais été frappé par ça. Des télévisions occidentales qui avaient été là, puis ils parlaient aux gens. Ça faisait 5 ans que la guerre était finie, puis ils leur disaient, bon, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez découvert l'Holocauste, tout ça. Tout le monde disait, en d'autres mots, la mentalité avait pas changé. Puis à un moment donné, tranquillement, ça s'est mis à changer. Et soudainement, l'Allemagne est devenue porteur de la culpabilité de l'Occident. Ne jouait pas un rôle politique très important, jouait un rôle économique, oui. L'Allemagne était coupée en deux parce que les Alliés avaient peur qu'elle se regroupe à nouveau puis qu'elle nous attaque à nouveau.
Mm-hmm.
Et puis là, pendant tout ce temps-là, tout ce qui était nazi, le monde voulait s'en éloigner. En fait, il y a des lois très, très strictes en Allemagne à propos des croix gammées, puis enfin, tous les symboles du nazisme. Et puis, soudainement, c'est en train de ressurgir, cette affaire-là, et ça, c'est
Mais tu crois-tu vraiment... Tu crois-tu vraiment que ça peut prendre une grande ampleur? Moi, honnêtement, je pense que c'est un mouvement marginal. C'est sûr que ça me fatigue...
C'est de moins en moins marginal, c'est ça.
Non, je sais, il y a un nouveau parti qui a vu le jour, là, puis qui puise dans les sentiments anti-immigration, puis bon, t'as raison, c'est de moins en moins marginal, mais on s'entend que l'opinion publique allemande est pas sur le point de se tourner à nouveau vers l'extrême droite, puis vers l'intolérance, comme on l'a connu auparavant, là.
Oui, on est loin de ça, effectivement, sauf qu'il y a des régions d'Allemagne, particulièrement l'ancienne Allemagne de l'Est, l'ancienne partie communiste de l'Allemagne,
ouais.
Où ces partis un peu qui nous font peur, là, vont chercher des 15-20% du vote, Bernard.
Oui, c'est vrai.
20% du vote, là, ça commence à faire du monde, ça. Et ça, c'est drôlement inquiétant. Puis évidemment, l'Allemagne vit encore les lendemains d'une décision dépendant du point de vue, on peut la qualifier de courageuse ou ben non de naïve, là.
Ouais.
Angela Merkel qui a accepté de faire entrer 1 million de réfugiés syriens principalement. Ça, là, l'Allemagne...
Ça
a fait lever l'extrême droite énormément.
Ouais.
Et franchement, je sais pas pourquoi elle avait fait ça. Tu sais, l'Allemagne essayait
de... Elle l'a
fait
par conviction.
Par conviction, oui.
Pas par calcul politique, parce que honnêtement, par calcul, ça a été désastreux. Elle l'a fait par conviction. Je pense que 1 million, c'était trop, honnêtement.
C'est ça que je pense aussi.
Je pense qu'un million, c'était trop. Elle le reconnaîtrait probablement avec le recul. On verra dans ses mémoires.
Mais elle voyait dans l'obligation... historique de l'Allemagne,
ouais,
d'être un pays d'accueil pour compenser les horreurs du passé. C'est ça qu'elle pensait, Mme Merkel.
Exact. Mais tu sais qu'elle s'est rétablie beaucoup dans l'opinion, parce qu'à la suite de cette décision-là, elle a chuté dans l'opinion publique. Mais sa gestion de la crise de la COVID a fait en sorte qu'elle est redevenue très, très populaire. Hein? T'as vu
bien,
ça comme moi.
Bien qu'elle a annoncé qu'elle va quitter.
Oui.
Alors, elle est en remontée. Écoute, c'est une femme remarquable, Angela Merkel. Faut l'accepter. C'est pas une... Tu sais, c'est une scientifique qui vient de l'Allemagne de l'Est, donc qui vient de Berlin-Est, qui a connu c'était quoi le régime communiste qui était là, et qui a fini par gravir les échelons de cette institution qui est le Parti démocrate chrétien jusqu'à temps d'arriver au pouvoir. Ouais. Et depuis ce temps-là, elle a mis en place une sorte de stabilité économique. L'Allemagne a repris sa place, puis là, ben l'Allemagne est redevenue un pays de près de 100 millions d'habitants maintenant. C'est le moteur économique de l'Europe, pour ne pas dire de l'Occident. Et les Allemands ont encore des bébites. Ils ont encore...
Oui, il y a encore des... T'as raison.
Ben, il y a des souvenirs. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je pouvais pas m'empêcher, quand j'allais en Allemagne, Bernard, de regarder les gens... De me dire, mon Dieu, qu'il a l'air sympathique, son grand-père devait être un soldat nazi.
Ben oui,
il était tous.
Moi, j'ai étudié avec des jeunes Allemands. m'a dire une affaire. Ils portaient cette culpabilité dont tu parlais comme un poids là, sur leurs épaules. Là. Ils étaient honnêtement là, en fin de soirée là, autour d'une bière là. Ils étaient honteux de leur histoire.
Mais ils n'aimaient pas beaucoup en parler, hein, t'as remarqué?
Non, mais c'est pour ça que
c'était pas un sujet qu'on pouvait soulever beaucoup avec eux.
Après une coupe de bière. Luc, on va se reparler un peu plus tard du Canadien, OK?
Avec plaisir.
Bon, juste avant d'aller à la pause, il y a Nicole qui m'écrit là, à propos de l'histoire là, sur la confiance et le go. Là. OK, elle me dit, Monsieur Drainville, on n'en peut plus. Est-ce qu'on pourrait pas déclarer la journée, une journée sans chiolage, juste une journée pour avoir un break? Avec la violence sur les réseaux sociaux, les manifestants anti-masques, les complotistes, donnez-nous un break, dit Nicole. Et j'ai quelqu'un d'autre qui m'écrit. Il dit, on est une gang qui vous écoutons dans un laboratoire. Et mes collègues et moi sommes d'accord pour dire que c'est l'attitude des gens en général qui nous déçoit et non le gouvernement. Alors, je voulais répondre à ce texto. Vous êtes nombreux, apparemment, à nous écrire, à nous écouter dans ce labo. On vous salue. Après la pause, c'est Jean-Luc Brassard, champion olympique, qui a décidé d'avoir des enfants, puis il n'était pas sûr. J'ai hâte de savoir ce qui l'a convaincu.